Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Lisa Traverso.
Bonjour Aurélien.
Lisa, merci. C'est cool de t'avoir. On a fait un super épisode, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir ça, sur la respiration. On explique les fondamentaux théoriques et pratiques de la respiration. C'est normal parce que Lisa, si vous ne la connaissez pas parce que vous n'avez pas vu cet épisode, est spécialiste de pilates et spécialiste de glisse. Elle a été formée notamment en XPT à Los Angeles, la formation de Laird Hamilton.
Chez les dieux de la glisse, on va
chez
dire.
Le dieu de la glisse, hein, c'est quand même pas rien, Laird Hamilton. Et du coup, bah, le type qui passe 6 minutes en apnée dans une vague, les rares fois où il tombe, on peut imaginer qui sait de quoi il parle quand il parle de respiration. Et du coup, on fait le pont avec le premier épisode. Hein, il faut aller voir parce qu'on va pas reprendre tous les fondamentaux. Mais là, on va aller du coup sur un versant beaucoup plus performance, sur un versant beaucoup plus exploitation de ces techniques pour aller un petit peu plus loin. Et bah, je suis très enthousiaste de ça parce que je suis sûr qu'on va tous apprendre plein de trucs.
Ouais, merci à nouveau pour cette belle présentation, Aurélien. Et en effet, je pense que ça va être encore plus pertinent à tes arguments dans tes podcasts puisque là, on traite vraiment comment aller booster les potentiels du sportif et à travers des méthodes purement mécaniques.
La respiration, c'est un facteur entraînable, comme tous les autres. C'est presque une qualité physique à part entière. Et ben, de la même manière que la force, que la vitesse, que l'endurance, il faut en planifier le développement méthodique, organisé, progressif. Et ça, c'est une de tes vraies spécialités.
Après, comme on avait dit justement sur le dernier épisode, on parlait des tendances dans les cadres des sports de niveau, c'est plus qu'une tendance. C'est un peu le graal de la performance, de réussir à améliorer son endurance grâce à un meilleur transport d'oxygène dans les sangs et dans nos muscles.
Puisque c'est l'aboutissement, c'est la finalité du truc.
La finalité, donc... C'est pas nouveau, on va dire, mais aujourd'hui, il y a quand même des petits outils qui peuvent être à la portée de tous et faciles à mettre en place pour qu'on n'ait pas besoin d'un entraîneur, d'un athlète de haut niveau, forcément, qui soit dans des compétitions mondiales, mais qu'on puisse tous l'appliquer à des protocoles d'entraînement assez basiques et quotidiens.
C'est marrant, culturellement, pourquoi on en arrive là, je m'interroge toujours, parce que on est, alors surtout en France, où on a un gros héritage de l'athlétisme, on est quand même obsédé par le VO2 max. Donc, d'ailleurs, souvent on dit la VO2 max, alors que c'est un volume, hein, le VO2 max, la consommation d'oxygène maximale à un effort, donc aérobie par essence. On est obsédé par les filières énergétiques, notamment l'anaérobie, tous les efforts qu'on va faire sans nécessairement avoir de l'oxygène.
Et je me suis toujours dit, mais pourquoi au cœur de tout ça, la base de la base, on ne commence pas par se dire, bon, bah, la respiration, donc. C'est très, très étonnant. Enfin bon, on en est là. En tout cas, on va essayer de débloquer tout ça ensemble aujourd'hui, de tout débrider. La respiration de la perf, c'est avant, c'est pendant, c'est après, c'est tout le temps.
Tout à fait. Et c'est vrai que dans le cadre de la respiration qu'on entraîne chez XPT, on a, comme on avait déjà en plus nommé, une boîte à outils qui peut être utilisée, comme tu dis, donc, pour la préparation à l'effort, pour une activation, qui peut être utilisée pendant l'effort pour devenir plus fort, plus performant, et surtout aussi pendant l'effort d'arriver à gérer un stress supplémentaire qui pourrait se présenter dans les cadres après de la performance
de la compétition.
Et puis une récupération qui est davantage efficace si on y rajoute des respirations qui induisent au calme et un état de récupération cellulaire et mentale.
Alors c'est marrant parce que la respiration d'échauffement, d'activation, même dans les sports et de récupération d'ailleurs, on va prendre les deux extrêmes qui encadrent la performance d'entraînement ou de compétition, même dans les sports où il y a une culture de la gestion et de la prise de contrôle de la respiration, je vais parler de la force athlétique par exemple, je vais parler de l'haltérophilie, ça a un peu disparu dans les autres secteurs de poids et haltères, hein, même si les culturistes s'en servent encore beaucoup, heureusement. Dans la musculation, loisir, fitness, ça s'est passé complètement à l'as.
Silence radio.
Silence radio complet. mais même dans les endroits où vraiment on s'en sert beaucoup, n'y a pas le travail de préparation, il n'y a pas le travail de récupération.
C'est un peu négligé. Après, il faut prendre le temps. Et ce qui est difficile, je trouve, c'est d'instruire la clientèle ou les sportifs aux bénéfices que tout cela apporte, parce que c'est pas pour rien qu'elle existe. Après, notamment un sportif qui est plutôt discipliné, il va l'appliquer, il va pratiquer ce protocole même tout seul et il va sûrement voir les bénéfices. Dans les cas où on n'est pas cette discipline, c'est à nous de faire en sorte que ça se passe avant, pendant et après pour que effectivement on arrive à optimiser la performance.
Donc on peut s'en rentrer dans les détails vraiment théoriques fins qu'on aborde dans le premier épisode. Hein. On peut rappeler quand même que les impacts mécaniques, les impacts cellulaires et les impacts nerveux, la prise de contrôle respiratoire sont majeurs, sont très très importants. Plus l'effort est intense ou a un impact justement ventilatoire majeur, et plus c'est vrai. Donc il va falloir à un moment donné mettre en place des protocoles, il va falloir, comme tu le disais, éduquer, acculturer le sportif, le client que l'on entraîne à être autonome là-dessus, parce qu'on n'a pas vocation à répéter sans arrêt les mêmes choses. À un moment donné, il faut que ce soit intégré et que ça fasse partie de leur ADN d'entraînement. Comment t'amènes le truc, toi, avec tes athlètes au départ
Alors,
tes clients,
c'est assez curieux comment, dans les cadres de la performance, ça soit un tout petit peu différent. On va dire qu'on a un majeur contact avec son corps. Je trouve que le sportif a plus de conscience, généralement. Hein. Ce n'est pas toujours vrai, mais de son corps, notamment de la prestation que ses muscles peuvent délivrer. Donc, dans les cas d'une équipe que j'entraîne pour une activation, donc on va dire pour une prise de conscience initiale, je démarre de l'entraînement de la cage thoracique par la manipulation. Donc par exemple la prise de conscience grâce à la position des mains qui va être autour de la cage thoracique et qui va commencer à masser la cage thoracique. Donc on est assez vigoureux dans l'impact dans ce cas de sportif, puisque dans l'effort, plus tard, la cage thoracique, elle va être activée, elle va augmenter le volume et de façon plutôt rapide et puissante. Donc on n'est pas chez un sédentaire qui va à peine ressentir. Les sportifs, ils savent que quand il va
s'hyperventiler... On part de moins loin souvent, c'est vrai.
On a quand même une conscience que ça va rentrer dans des phases où il a intérêt que ça soit échauffé, tout ça. Donc c'est l'échauffement, mais c'est aussi une prise de conscience. Et donc ça démarre d'un massage tout autour de la cage et jusqu'à un étirement. Donc en plaçant les doigts, par exemple, en dessous du plexus solaire, en inspirant profondément, on fait des digipressions tout à l'intérieur de la cage thoracique, tout le long des côtes flottantes, pour avoir une petite sensation d'arriver à l'écarter. Et je pense, alors moi je n'ai pas des cyclistes, je n'ai pas de discipline qui a des positions renfermées, mais je pense que davantage chez les sportifs qui ont des positions assez bloquées, cet échauffement peut donner un sens d'ouvrir de volume, de donner un petit peu plus d'élasticité initiale à la cage qui, suite à, pendant l'effort, va devoir vraiment donner preuve d'expansion et puissance.
C'est vrai, c'est exactement comme ça que j'aborde le problème aussi de mon côté. J'en parle énormément dans l'art du mouvement, hein, où il y a un chapitre consacré. Et au final, où on retrouve les mêmes protocoles que sur la mobilité des autres blocs, des autres maillons, des autres étages articulaires. Où on dit, au niveau de la cage thoracique, on va faire ce que tu décris, c'est-à-dire de l'automassage, de l'étirement, et puis très très vite de l'activation. C'est ni plus ni moins que ce qu'on ferait sur l'activation de la voûte plantaire, par exemple. On va faire de l'automassage, de l'étirement, et puis ensuite de la mise en tension dynamique et de la prise de contrôle. De toute façon, c'est toujours les mêmes principes d'échauffement et échauffement. Donc, on augmente la température des muscles, on augmente leur sensibilité et leur activation. Et effectivement, l'automassage est un outil particulièrement pertinent pour ça. La cage thoracique n'y échappe pas.
Donc c'est vrai que, comme on en a déjà parlé, les diaphragmes, et dans le cas de la respiration, le muscle principal qu'on veut activer, donc suite à l'automassage, on a besoin de l'activer volontairement en donnant des volumes et des temps respiratoires spécifiques pour stimuler son échauffement rapide et profond.
Donc là, on avait donné quelques protocoles, hein, tu te souviens, dans l'épisode précédent. Dans le cadre d'un échauffement, du coup, tu les amènes à quel type de respiration à ce moment-là de l'échauffement, une fois qu'on est passé par cette phase de massage, tu leur donnes quoi comme consigne?
Pour l'activation, on va dire, ça dépend aussi de l'athlète et de la personne qu'on a devant nous. Et il faut toujours, comme tu dis, observer, s'adapter et ne pas imposer un protocole que pour une personne, par exemple, qui est déjà de base stressée, pourrait être inadaptée. Donc, pour moi, personnellement, une superventilation, donc augmenter, aller sur quelque chose d'un peu plus puissant, augmenter les rythmes et le volume de mes inspire-expire, suivi d'une apnée, d'une petite apnée expiratoire, submaximale, par exemple de 30 secondes, va me permettre à la fois de me ressentir activée, vigoureuse, parce que tout cela apporte quand même un échange sanguin plus important. Et après, dans la petite apnée, on va favoriser le focus, le calme. C'est aussi apprécié par la plupart des sportifs, mais il s'avère qu'un sportif qui est un peu plus stressé va peut-être privilégier un protocole où on a une respiration plutôt parasympathique dont on a parlé dans l'autre épisode et dont on va sensibiliser plus les expirations profondes, l'activation du diaphragme pour induire un calme mental, pourquoi pas joint à une visualisation avant la performance par exemple.
Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent les gens polarisent un peu l'échauffement. Il y a plein de choses à polariser dans l'entraînement mais pas trop l'échauffement quand même. Et du coup, sur la respiration, c'est encore plus marqué. Et il ne faut pas systématiquement généraliser que tout le monde a besoin d'activation. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que pour s'échauffer, il faut se suractiver. Non, non, il y a des gens qui arrivent déjà boule de nerfs, qui arrivent déjà surconcentrés,
Et c'est la gestion du stress la plus grosse problématique. Donc, on va inverser, on va choisir plutôt, on va observer et comprendre que ces genres de sportifs ont besoin plutôt d'un état de calme mental et de contrôle.
Ouais. Alors, à l'inverse, évidemment, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit non plus. On ne leur fait pas une relaxation sophrologique pré-wakeboard, hein. C'est pas l'idée non plus. Il faut quand même qu'ils soient ici et maintenant. C'est toujours cette idée de flow, hein, d'état d'activation un peu optimal. Mm-hmm. Mais n'empêche que tout n'est pas adapté à tout le monde, même si quand même ton petit protocole que tu nous donnes, là, en général, arrive à harmoniser, on va dire, l'état d'activation de la plupart des gens, qu'ils arrivent un peu suractifs ou sous-actifs. C'est juste pour les hypertendus ou les un petit peu surexcités qu'il faut peut-être justement...
Mais après, comme on a dit, c'est vraiment subjectif et s'il y a un bon rapport, la personne, elle va le demander. J'ai eu le cas récemment d'un wakeboarder qui est professionnel dans le hockey sur glace et qui dit j'ai besoin de ton aide pour réussir à me calmer avant la performance. Donc peut-être qu'on n'a pas peut-être besoin de lui donner un protocole juste avant la performance, mais qu'on peut lui faire un rappel de le faire la veille et que ça rentre en jeu pour prévisualiser lendemain avant la performance, c'est qu'on a induit la veille, donc un état qui revient dans son esprit parce qu'il a travaillé quelques heures auparavant.
Ça rejoint ce qu'on disait avec Mathias Legris, hein, dans un autre épisode sur le coaching 360. Rappelez-vous que de moins en moins, le coaching se limite à un slot temporel où on est en face-à-face pédagogique avec le sportif ou le client, hein, ça va bien au-delà de ça. Effectivement, si on essaye de régler tous les problèmes dans les 5 minutes qui précèdent la séance, souvent on est un peu déçu, surtout sur les profils un peu extrêmes. Donc y a un travail de fond à faire, un travail d'éducation, encore une fois, on est autant des professeurs et des éducateurs que des coachs à l'instant. Donc c'est important, je pense, ce que dit Lisa à ce stade. Ok, du coup la séance peut démarrer.
Et la séance peut démarrer. Donc on a dans le cadre de l'effort quelque chose qui est pour moi un vrai outil qui aide, je l'appelle la boîte à vitesse. C'est quelque chose qu'on va maîtriser surtout dans les entraînements avant la compète, parce que pendant la compète, après, il y a une série de facteurs qui rentrent en jeu. Mais avant la compétition, quand on va, par exemple, dans les séances en salle, amener de gros pics cardio, la boîte à vitesse devient un très bon outil. Il s'agit simplement de penser la boîte à vitesse de la voiture. Donc, je fais un petit pas en arrière en parlant donc de la différence entre la respiration nasale, un état donc parasympathique et calme, donc on ne respire pas les nez, on est calme, on est zen, et un état de hyperventilation, de stress ou de gros efforts où on est obligé de choisir la voie respiratoire qui nous donne accès plus vite et plus facilement à l'air, enfin au poumon, donc c'est la bouche. On va avoir un plus grand échange gazeux par la bouche. Et donc, dans un état un petit peu un peu effoulé, on dit.
Essoufflé,
dans un état d'essoufflement, pardon, on a plus besoin d'accéder à ses voies respiratoires. Donc la bouche doit rentrer en jeu, mais attention, parce que à travers la bouche, on a tout de suite un échange gazeux et qui comporte une plus grande entrée, mais aussi une plus grande perte d'air. Donc, quand on veut augmenter en utilisant la bouche, on peut là aussi aller régler en disant il y a plus ou moins de volume. Donc, on peut augmenter la proximité des inspire-expire et on peut essayer de le réguler pour les espacer, pour les diluer dans le temps. Donc, je deviens plus concrète. La vitesse numéro 1, c'est respiration nasale calme. La vitesse numéro 2, c'est la respiration nasale plus rapide. On est plus accentué dans les rythmes entre un inspire et un expire. La vitesse numéro 3, ça va être nez, bouche, puisqu'on ne peut plus. Alors, en fin de compte, le nez va nous permettre de rentrer moins d'air que la bouche. Donc, à un moment donné, quand on a besoin de plus grandes inspires, le nez ne va pas suffire. Donc, on passerait peut-être pas tout le temps, mais dans certaines inspires-expires, en alternance, à nez-bouche. La troisième, c'est nez-bouche rapide. Donc, on privilégie toujours le nez pour des facteurs qu'on a dit, qui sont l'activation du diaphragme et l'amélioration des échanges gazeux, de l'ouverture des alvéolies. Donc, il a vraiment de valeur ajoutée, l'utilisation du nez qu'on connaît.
Même à haute intensité, oui.
Voilà, même à haute intensité. Donc, dès la troisième vitesse qu'on a dit, nez-bouche, on passe à nez-bouche rapide. La dernière vitesse, ça va être bouche-bouche. Quand on ne peut plus, quand on est vraiment saturé, on ne peut plus faire autrement, et bien la bouche va être la voie d'entrée et de sortie de l'air.
Excusez-moi.
Qu'est-ce qui peut se passer dans l'effort? C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on reste en respiration bouche-bouche et on ne régresse pas volontairement, alors qu'on pourrait. Donc le sportif, à côté de nous, qui est sur une machine ou qui peut avoir une consigne live, on va dire, va avoir, attention, ce n'est pas seulement la course, ça peut être sur des squat jumps, ça peut être sur tout effort à haute intensité. On peut lui donner le conseil, en tout cas l'outil dont il va s'approprier, c'est de réduire les vitesses. Donc pourquoi, si tu n'en as pas besoin, respirer aussi vite, nez-bouche? Ou pourquoi, si tu n'en as pas besoin, utiliser la bouche? L'idée, c'est de revenir le plus vite possible à maîtriser et réduire les vitesses. Donc dès que je sens que je peux, peut-être en alternance, comme tu dis, c'est une bonne façon de le communiquer sans mettre un état de stress. Oh my God, il faut que je change complètement de façon de respirer. Non, il faut que ça soit progressif, que ça s'installe. C'est une habitude qu'il faut que ça s'installe progressivement et qui peut effectivement, dans un état, donc un entraînement, comme on l'a dit, hors performance, eh ben, venir en aide. Et ça sera sûrement quelque chose que l'athlète se rappellera pendant l'effort, dans la performance, puisque pendant la compétition, pardon, puisqu'il saura tout de suite que c'est un moyen non seulement de mieux régler sa respiration, mais aussi de se auto-calmer dans un état où autrement il pourrait perdre le contrôle de la situation.
C'est une très très bonne image, je trouve, parce que effectivement, quand on conduit en voiture en cinquième sur l'autoroute, quand on est tout seul, on peut très bien se dire, tiens, je vais freiner jusqu'à 70 km/h, rester en cinquième, et du coup, réaccélérer après doucement. Alors, ça marche, mais on est en sous-régime. On est en sous-régime tout du long, alors que si on avait simplement rétrogradé, on aurait tout optimisé pour être sur le régime idéal à la vitesse de déplacement en question, quoi.
Oui.
C'est une très très bonne image, et effectivement, je pense que c'est un bon acte pédagogique que d'éveiller les athlètes à ça. Même sur certaines séances, on imagine très bien certains circuits training, on peut anticiper et dire, ça vient presque enrichir la calibration de l'effort. Hein. On sait sur certains, nous on est dans des sports à habileté très ouverte, où les intensités sont parfois très dures à maîtriser. C'est pas comme un chrono sur une piste d'athlée. Hein, voilà. Quand on a des athlètes sur un circuit training un peu complexe, c'est pareil. On cherche les repères d'intensité. Et quand on a des pas sur un step ou des sauts à la corde à sauter ou des sauts groupés, des burpees, etc., c'est très compliqué de calibrer l'intensité. Gérer déjà l'intensité de la récupération, c'est déjà donner une indication. C'est-à-dire, mon groupe, vous êtes sur de la vitesse 3, donc respiration bouche et nez. Ils savent à quoi ça fait référence et ils savent qu'ils ont encore deux vitesses au-dessus s'il faut se mettre un peu plus dans le rouge.
Voilà. Après, il faut une capacité d'observation. Peut-être que ce n'est pas un rappel qui est tout le temps présent, mais une petite piqûre de rappel quand on voit qu'un défaut respiratoire s'installe chez la personne. Donc, une petite piqûre de rappel peut tout de suite ramener en tête de la personne qu'elle peut améliorer son état tout seul, simplement en faisant ce petit switch en arrière.
Passionnant. Du coup, on a un outil avant la séance, on a un outil pendant la séance. Juste après la séance, pour le, j'imagine que tu t'en sers pour la sortie de séance, pour le cool-down. Pour...
Alors après, si je peux rajouter, sur pendant la séance, là, on a un outil qui va être optimal pour la gestion, auto-gestion de sa respiration et de sa capacité à revenir dans un état plus calme. Je rajoute simplement le fait que, puisque tu as quand même un public qui t'écoute assez pointu sur ça, et il ne faut pas négliger que la respiration peut jouer un rôle associé aussi à la simulation de l'entraînement en haute altitude. Donc l'entraînement en altitude, on le sait, les bénéfices d'entraîner les athlètes en altitude va dans un état donc, de hypoxie, va vraiment avoir des bénéfices en termes donc, de leur capacité à transporter de l'oxygène dans leur sang et en production de cellules rouges dans les sangs. Donc on a une augmentation de nombre de cellules, d'hémoglobine, et on a une augmentation.
Plus de transporteurs.
Voilà, donc on a des bénéfices physiologiques vraiment à cause de cet entraînement en altitude. La méthode très très basique qu'on utilise en performance breathing pour aller la simuler. Alors certes, on va dire pas tout le monde peut faire ça, mais alors pas tout le monde pourra. Enfin, on parle d'un public qui on doit pouvoir s'adapter. Pas tout le monde pourra faire de squat jump. On doit s'adapter. Pas tout le monde pourra faire des apnées pendant l'effort. Donc l'effet d'amener de l'hypocapnie, donc de la présence plus augmentée du CO2, et ben va faire une petite simulation de ce qui pourrait se passer en altitude. Donc peut-être pas tout le monde peut aller à la montagne et entraîner ses athlètes, mais qu'est-ce qui se passe? Simplement, le concept est simple. Dans l'hypocapnie, on va avoir un besoin de transporter plus d'oxygène aux cellules. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction excuse-moi le mot en français, spleen, l'organe, le chestivel. Le spleen, c'est l'organe qui produit les cellules, en fait.
Le spleen, c'est le...
Le cystifel.
Spleen, c'est quoi? C'est les...
Cystifel.
La rate.
Donc, on va juste rajouter l'importance de connaître les bénéfices des apnées. Donc, le pourquoi les apnées peuvent intervenir dans le cadre de la respiration pour la performance. Puisque en état d'apnée, il va y avoir un signal comme quoi les organes ont besoin d'oxygène. Donc on a besoin d'oxygène, qu'est-ce qu'il fait notre système? Il interpelle l'organe qui va en produire, des cellules rouges, et c'est la rate. Donc en état d'apnée, la surproduction de cellules rouges a lieu, et c'est le pourquoi on va avoir intérêt à simuler, donc c'est en gros c'est la simulation de l'état d'entraînement en altitude. On va induire des apnées à la personne pendant l'effort. On peut le faire pendant l'effort, comme on peut le faire simplement en ayant un protocole détaché de l'effort, ou alors sur quelque chose de très doux, comme de la marche. Donc on va décider, par exemple, je l'amène dans un exemple très pratique, on va dire un sportif, on va essayer aujourd'hui de marcher 30 pas en apnée. Peut-être que le premier jour, il n'y arrive pas, peut-être qu'il arrive à faire 20 pas. Ok, on va continuer dans ce protocole de le faire marcher sur un tapis ou une course douce, ça dépend après de l'état d'entraînement de la personne, en apnée, donc poumon plein, donc en arrêtant de respirer carrément. Cet état donc, va cumuler les niveaux de CO2 dans son sang et va induire la production donc, de plus de cellules rouges qui vont après être utiles pour transporter plus d'oxygène à ses muscles. Donc au fur et à mesure, progressivement, on va essayer d'augmenter ces temps d'apnée. Donc on a dit pendant l'effort, ça peut être des pas, mais en étant assis, ça peut être simplement des apnées qui peuvent être chronométrées et on va davantage avoir des meilleurs résultats sur la performance puisqu'on a plus de tolérance au CO2. Donc, concrètement, dans la pratique sportive, c'est très intéressant d'utiliser un outil qui s'appelle BOLT Score, c'est Body Oxygen Level Test. C'est peut-être que vous pourriez vous renseigner, donc dans la vidéo de mon site, je vais en parler, de comment mettre en place ce test, puisque il est censé être vraiment l'outil pour mesurer l'état de, passe-moi le terme, fitness respiratoire de votre athlète. Donc il va vraiment mesurer le métabolisme respiratoire d'une personne et à quel état il se trouve. Le test donc va vous donner un résultat et ce résultat, il va pouvoir carrément être amélioré. Donc on a un outil comme on peut avoir des tests dans le cadre de la préparation physique, on a un outil dans le cadre de la respiration pour mesurer où notre athlète se situe et ensuite en appliquant les protocoles, on va voir sa progression.
Encore un argument, si on en avait besoin, hein, pour de l'entraînement anaérobie au service de l'entraînement de la performance finale aérobie. Hein, tout est lié. Hein, à la fin, on a besoin, encore une fois, parfois pas que au niveau mécanique, aussi au niveau cellulaire, voire nerveux, de pouvoir créer des ponts entre les systèmes énergétiques. Le meilleur pont, c'est la respiration, effectivement. Super, on a vraiment beaucoup de concret dans cet épisode, je suis hyper content. Sur la sortie de séance, du coup, tu préconises quel type d'approche pour ben,
on
le
a parlé,
cool-down et le...
Voilà, les recovery et les cool-down sont, favorisent donc les retours au calme et majeure, on va dire, détente du point de vue mental, mais aussi une récupération plus rapide du point de vue de notre corps. Je vais privilégier une respiration plutôt abdominale, allongée, avec simplement un rythme de temps inspiratoire, de, par exemple 4 ou 5 temps, quelque chose qui n'induise pas une personne à être en difficulté respiratoire, et un temps expiratoire le double. Donc le recovery breathing dont on parle, s'agit simplement de moduler un temps inspiratoire et un temps expiratoire double au temps inspiratoire. Donc 4, 8, voire 5, 10 pendant 8 cycles, une dizaine de minutes, et cela va déjà, deux minutes.
Une douzaine.
pendant
2 minutes.
Ça ne se dit pas. Donc pendant 2 minutes, suffit. Allez, après, vous pouvez très bien ramener la personne à une respiration plutôt naturelle. Alors moi, j'aime bien, vers la fin, aller rajouter un peu de body scan pour qu'il y ait une prise de conscience de la détente de toutes les parties du corps et progressivement un retour à une respiration totalement naturelle, bien sûr, nasale.
Super, vraiment hyper intéressant. Merci pour tout ça, Lisa. Si vous voulez plus sur la respiration, elle a évidemment un univers étendu sur son site web, hein, coretrainingstudio.com. C'est la même appellation sur son Instagram aussi, donc elle est assez active. N'hésitez pas à aller la suivre. Elle reviendra, hein. On a un troisième épisode qui est prévu. Je te remercie encore vraiment pour ça. C'est
Merci
hyper concret, hyper précis. On sent que tu maîtrises très, très bien. Allez aussi regarder ce que fait Lord Hamilton sur XPT. C'est quelque chose qui nous passionne tous les deux. En tout cas, vous nous écoutez et je vous en remercie sur toutes les plateformes de streaming, hein, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Deezer. Vous nous regardez sur YouTube ou sur mon site web www.broussal-derval.com et vous savez qu'il y a plein d'autres épisodes qui vous attendent, souvent en exclusivité sur le e-campus de transfert. Allez donc y faire un tour. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.